dans le dugout.
Ben oui, dans le dugout ce matin, chronique baseball qui va être, je pense, parmi les plus faciles à faire de toute l'année. C'est le genre de chronique où les sujets, on n'a même pas besoin de s'en parler, Oswey et moi, ils venaient tous un peu naturellement. Hier, on s'est écrit quelques fois pendant la journée et disons que l'ordre des sujets était plutôt facile à établir. Il est avec nous, Oswey Perlé, ce matin. Comment tu vas, Joe?
Écoute, ça va super bien, Jasmin. Je pense qu'on vient de... justement là, vivre une période d'échange incroyable au baseball hier.
Ben, la période d'échange dans le baseball majeur, on ne sait jamais ce qu'elle va nous réserver. Il y a certaines années où c'est un peu plus tranquille, mais je pense que depuis que le nouveau format des éliminatoires a ajouté des équipes, ben, ça fait plus d'équipes qui peuvent y croire, plus d'équipes qui veulent acheter aussi. Parce qu'il y a quelques années, il y avait tellement peu d'équipes en éliminatoire que forcément, là, ça faisait beaucoup de vendeurs pour pas beaucoup d'acheteurs, là.
Exact, alors que là, je pense qu'on a très bien vu là, que c'était pas mal égal. Et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes là, qui se sont beaucoup améliorées. J'ai hâte qu'on en jase ensemble.
Ouais, je sais que tu as hâte de me parler des Padres de San Diego. On va y venir, mais je veux d'abord qu'on parle des Blue Jays de Toronto. Les Blue Jays, évidemment, n'ont peut-être pas soulevé les passions hier avec les mouvements qu'ils ont faits, mais ils ont fait trois transactions et les trois sont quand même intéressantes à leur manière. Shane Bieber a été acquis hier, ça s'est passé il y a un peu moins de 24 heures. On était toujours en onde, nous, hier, vers 9h45, lorsque la transaction a été annoncée. Qu'est-ce que tu en as pensé? Shane Bieber, c'est un peu dans la catégorie, soit on frappe un coup de circuit ou soit on est retiré sur trois prises avec ce mouvement-là.
Ben, j'adore la chance que les Blue Jays prennent avec lui, on s'entend. C'est un ancien aussi gagnant du trophée Cy Young, remis au meilleur lanceur des ligues majeures. C'est un gars qui peut justement là, devenir, on peut dire, dans 2-3 ans, oh mon Dieu, on est allé tellement chercher un bon lanceur. Comme on pourrait dire aussi, bon, il est encore blessé, puis finalement, ça n'aurait pas fonctionné. Mais c'est vraiment là, un bon lanceur qu'on est allé chercher.
On a donné Carl Steffen, qui est le cinquième meilleur espoir des Blue Jays, un lanceur droitier qu'on a cédé en retour de Shane Bieber, qui, Oswey, on peut le dire, n'a pas lancé en 2025, est en train de compléter sa remise en forme au niveau des ligues mineures, et on s'attend à ce que d'ici possiblement 2 semaines, il puisse peut-être relancer au niveau du baseball majeur. Alors, on a espoir que ce gars-là puisse aller aider dans la deuxième portion du mois d'août, au mois de septembre, et les Jays vont espérer, bien sûr, au mois d'octobre.
Là. Exact. Puis, tu sais, ça a été toujours un lanceur partant, mais je pense qu'avec avec la rotation que les Jays, là, ils vont avoir prochainement, je pense que si jamais on a de l'aide là, de Shane Bieber, ça va être vraiment là dans l'enclos de releveurs.
Ah oui, tu penses qu'on va l'utiliser comme releveur?
Ben, écoute, si tu regardes, là, normalement, lorsque tu t'en vas dans les séries, tu as sûrement 4 lanceurs partants.
Ouais.
Et là, si je pense, bon, on a Berrios, Bassett, Gossman. Scherzer et Gossman, tu mets pas un Shane Bieber, à place d'un de ces gars-là.
S'il y en a un qui est blessé, par contre, ben là, c'est là que Bieber peut amener de la profondeur à ce moment-là.
Exactement. Moi, c'est certain que si quelqu'un se blesse ou quelqu'un peut-être ne va pas bien aussi, là, qui donne beaucoup de points, peut-être qu'il va venir prendre cette place-là, mais on s'entend que dans les séries, là, on y voit 4 lanceurs partant.
Les Jays ont également mis la main sur un releveur droitier. Ça, les releveurs, j'ai un peu l'impression que c'est comme quand Marc Bergevin disait au hockey avec le Canadien qu'on n'a jamais trop de défenseurs. Ben, au baseball, je pense qu'on n'a jamais trop de bons releveurs quand on approche du dernier sprint de la saison. Louis Varland a été acquis des Twins du Minnesota. Il a d'excellents chiffres cette saison et une moyenne de points mérités à 2,02. Alors, c'est de bonne augure. On a aussi mis la main sur Ty France, mais j'ai l'impression que le joueur clé dans la transaction, c'est Louis Varland, là.
Louis Varland, qui était un lanceur partant auparavant, puis qui s'en allait pas nécessairement très bien. Et là, les Twins l'ont placé dans l'encreux des releveurs, puis on dirait qu'il a gagné 4-5 000 $ sur sa balle rapide. Il lance très fort, c'est un gars qui est grand, capable d'aller chercher des rétros au bâton. Donc, pour moi, je suis tellement d'accord avec toi, là, que Louis Varland, là, c'est vraiment la pièce que les Blue Jays voulaient aller chercher.
En début de semaine, Oswey, tu m'avais dit, je veux que les Jays aillent chercher de l'aide dans l'enclos de relève. Ils sont allés chercher Sir Anthony Dominguez et tu m'as dit après, j'en veux encore plus dans l'enclos de relève. Maintenant, avec Louis Varland qui s'est ajouté, est-ce que tu es satisfait de ce qu'on a fait avec l'enclos de relève cette semaine?
Écoute, c'est certain que je suis satisfait d'aller chercher 3 lanceurs quand même, puis des bons lanceurs.
C'est avec certain Bieber,
exact. C'est certain que si on se compare à quelques équipes qui ont fait des mouvements, tu sais, surtout les Yankees.
Ouais.
C'est certain que bon, on peut se dire bon, on aurait pu aller chercher plus, mais sincèrement, je pense que c'est des très bonnes transactions que les Jays ont fait. Puis, il y a une chose qui est importante là, qu'il faut se rappeler, on n'a pas beaucoup touché là, aux ligues mineures des Blue Jays, alors que on peut parler des autres équipes, là. Il y a des équipes là, qui sont vraiment qui sont allées all-in.
Ben, tout à fait. Les Padres en font notamment partie. On va y venir ensuite. Mais juste pour conclure sur les Blue Jays, il y a également le receveur Brandon Valenzuela, justement des Padres de San Diego, qui a été acquis en retour de Will Wagner. Je le disais avec Alexis, cette transaction-là me semble davantage être une transaction de on avait un besoin et un surplus et l'autre équipe avait le besoin et le surplus inverse, là.
Oh, exactement. Puis, surtout là, lorsque je le sais que ça paraît peut-être pas maintenant, mais Alejandro Kirk est encore blessé. Bon, est-ce que ça fait un petit trou dans les mineurs? Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher là, d'un petit peu plus d'expérience aussi là, dans les mineurs pour si jamais là, justement il faut aller monter un autre receveur? Mais je pense que t'es direct dans le mille, là. On avait besoin des positions de chaque côté.
André, je suis curieux de savoir, puis je te demande ça à brûle-pourpoint, est-ce que tu as des souvenirs d'anecdotes par rapport à la date limite des transactions, du temps où tu étais avec les Blue Jays? Faudrait que je regarde là, l'historique des transactions que les Jays avaient fait, mais est-ce que tu étais avec les Jays quand notamment l'été où on est allé chercher Troy Tulowitzki et on avait fait beaucoup d'acquisitions à ce moment-là? C'est dans les années, là, il me semble, où tu étais, si tu n'étais pas là, là, c'était proche de tes années à toi. Ça doit amener une énergie vraiment particulière lorsqu'on est le lendemain, le 1er août, et que là, on vient d'aller chercher des gars aussi. Comment ça se passe dans le vestiaire, ces moments-là qui suivent la date limite?
Ben, écoute, ça peut aller d'un côté puis de l'autre. J'ai vécu les deux. J'ai vécu celui où est-ce qu'on est allé chercher des très bons joueurs. On est allé chercher Benoit une année. On est allé chercher Liriano aussi
Ouais.
une année. T'sais, ça avait été. Lorsque tu es du côté gagnant, écoute, là, on dirait là, qu'on vient de laver ta voiture puis la mettre à zéro, là. Tout le monde est content. Tout le monde est comme bon, ben parfait. On a des joueurs partout, on est armé d'un petit peu partout, on est vraiment bien, puis tu sais, ça donne vraiment de l'énergie. Tu te dis, bon, notre directeur gérant est vraiment venu nous chercher, il est allé chercher de l'aide, on est prêt pour le dernier sprint, alors que lorsque tu es de l'autre côté de la médaille, mon Dieu, que ça peut être plate, puis ça peut être long. Tu te dis, bon, il te reste un mois et demi, t'espères que ça passe vite, t'as plein de nouveaux coéquipiers. On l'a vu avec les Twins, là. Ils ont échangé 10 joueurs.
Ouais, c'est, je le disais d'entrée de jeu, les Twins, j'ai l'impression que les deux derniers mois de la saison ne seront pas faciles.
Écoute, ça va être tellement difficile. Puis, tu sais, même pour l'entraîneur en chef, là, c'est dire, bon, j'ai perdu 10 de mes gars, 10 vétérans. On reçoit des gars des mineurs, quelques gars qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Écoute, t'as un mois et demi là, pour essayer de brasser un peu ta soupe, puis avoir là, des joueurs pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Donc, ça peut être très, très plate et long pour une équipe là, justement là, qui fait une vente de feu comme ça, là.
On va essayer de faire une tournée un peu de ce qui s'est passé ailleurs dans le baseball majeur, parce que là, on vient de vous faire le portrait un peu pour les Blue Jays de Toronto. C'est les transactions qui ont été faites. La grosse équipe et la grosse transaction hier, c'est celle que les Padres de San Diego ont fait avec les Athletics. Les Athletics les Athletics de nulle part pour le moment, là, mais les Athletics, où on est allé chercher J.P. Sears, un lanceur partant. Ça, je le disais tout à l'heure, c'est une acquisition intéressante. Mais si ça avait été J.P. Sears, on n'en aurait pas fait non plus les manchettes à outrance. La grosse acquisition, c'est aussi le releveur Mason Miller qui a été obtenu. Mason Miller qui est l'un des, je sais pas, 3, 4, 5 meilleurs releveurs du baseball majeur et qui est sous contrôle des Padres encore jusqu'en 2029. Mais Oswey, raconte-nous le contexte de la transaction. Les Padres ont donné très cher pour aller chercher ce gars-là.
Écoute, ils ont donné vraiment beaucoup. Je l'ai dit hier, puis tu sais, j'en parlais avec mes coéquipiers. On s'en allait jouer au baseball hier soir, là.
Ah ouais, ça me surprend, tu joues au baseball, toi.
On s'en allait jouer notre match senior là, à Victo, puis j'avais des coéquipiers dans la voiture, puis je leur ai dit toujours, tu sais, lorsqu'il y a un échange là, dans les majeurs comme ça au baseball, là, l'équipe qui reçoit les joueurs qui jouent déjà dans les majeurs, c'est l'équipe gagnante. Ça, là, c'est sans aucun doute.
Peu importe
là,
les espoirs qu'on a donnés dans ta mentalité à toi, les Padres ont gagné la transaction?
Exactement. Aujourd'hui, maintenant, les Padres ont une chance, une meilleure chance de gagner la Série mondiale. Est-ce que dans un an, deux ou trois, bon, les gars qu'ils ont donné, est-ce que ça va être des étoiles? Est-ce que ça va être des gars qui vont être peut-être déjà avec une équipe dans les séries éliminatoires, ou c'est des gars qui vont être des joueurs d'impact? Peut-être. Mais aujourd'hui, on s'entend qu'on est meilleur si je suis les Padres, avec Mason Miller, Ryan O'Hearn, Ramon Laureano, JP Sears. Puis on oublie aussi, on est allé chercher Nestor Cortez.
Ouais.
C'est certain que pour moi, c'est ce que j'aime du baseball beaucoup, c'est que on est capable de faire des gros échanges parce que on va aller donner des prospects que justement ça paye 1, 2, 3, 4 ans plus tard.
C'est drôle parce que hier, toi et moi, on se faisait le parallèle un peu avec quand Fernando Tatis avait été échangé aux Padres de San Diego lorsque les Padres avaient donné le vétéran lanceur James Shields et plusieurs années plus tard, la transaction qui hante évidemment de qui ça arrivait ça déjà avec les... je me souviens plus avec qui était Fernando Tatis, là, mais on l'avait donné...
avec les White Sox.
Avec les White Sox, exact. Donc avec les White Sox et ça l'a hanté les White Sox pendant longtemps parce qu'on aurait pu avoir Fernando Tatis. Là, le gros nom à retenir, c'est un jeune de 18 ans, un Areco de la République dominicaine qui s'appelle Léo DeVries, qui est classé au troisième rang des espoirs de tout le baseball majeur. Alors évidemment, c'était le meilleur espoir des Padres, vous comprendrez, mais on a aussi donné notre troisième meilleur espoir, le 13e et le 17e selon les classements là, qui sont disponibles sur MLB.com. Alors on a donné 4 espoirs du top 20, dont 2 de nos 3 meilleurs espoirs pour aller chercher ce lanceur-là, Mason Miller. Je pense que la clé, Oswey, c'est que Mason Miller est sous contrôle des Padres jusqu'en 2029. C'est pas un joueur de location, loin de là.
Non, puis on parle aussi là, de peut-être ramener Mason Miller comme lanceur partant.
Alors ah oui?
Le monde le sait pas. Mason Miller, c'est un lanceur partant dans les mineurs. Et lorsque les Athletics, justement, là, je pense qu'il était un petit peu proche de faire les séries là, pendant l'année COVID, la dernière année COVID, ils l'ont amené dans les majeures, mais dans l'enclos. Puis là, ils ont vu qu'il lançait bon des balles à 103, 104 000 à l'heure.
C'est un des gars qui lance le plus fort dans tout le baseball, si c'est pas le gars qui a la meilleure rapide de tout le baseball présentement.
Présentement, exactement. Alors, mais c'est un lanceur qui était partant. Alors, c'est un gars qui peut faire, justement, là, qui peut peut-être redevenir un partant. Imagine,
ah ouais, je savais même pas que Mason Miller avait déjà été partant. Moi, je l'ai tout le temps vu comme un releveur qui arrive en 9e et qui lance à 104, là, mais je savais même pas qu'il avait été partant.
Exact. Donc, peut-être cette année, il va rester là, mais écoute, là, si j'ai le contrôle de Mason Miller pendant encore 3 ans et j'ai su les Padres, là, ça pourrait être une option très intéressante. Et ça pourrait rendre l'échange peut-être un petit peu plus, comment je pourrais dire, bon, on peut peut-être comprendre pourquoi il a donné autant. Mais comme je le disais hier et je le répète ce matin, là, aujourd'hui, les Padres sont une meilleure équipe avec ces joueurs-là dans leur équipe. Par contre, on verra ce que l'avenir va nous dire.
Là. Ouais, les Orioles ont également échangé aux Padres, comme tu l'as dit brièvement, le Ryan O'Hearn et Ramon Laureano. Ryan O'Hearn a un excellent MPP à 837 cette saison, 13 circuits, 43 points produits. Et Ramon Laureano, ben, c'est un vétéran voltigeur également qui va amener une belle profondeur avec les Padres. Est-ce qu'avec ces transactions-là, les Padres, selon toi, prennent, je dirais pas une option, parce que bon, il y a toujours les Dodgers qui sont devant, là, mais est-ce qu'on va réussir avec ça? Est-ce que c'est assez pour aller gagner la section ouest de la Nationale?
Ben, écoute, moi, je trouve qu'ils se sont donné une très belle option pour aller chercher ça. Écoute, les Dodgers, je trouve qu'ils n'ont pas bougé beaucoup. C'est rare qu'on voit ça du côté des Dodgers. Alors, je pense que juste les Padres ont profité. Puis je pense qu'ils se donnent au moins une chance là, de rivaliser contre les Dodgers.
Il y a plusieurs autres équipes. On va essayer d'y aller un peu en rafale. Dans l'Est de l'Américaine, les Red Sox et les Yankees. Les Red Sox ont été allés chercher Dustin May des Dodgers. Ça m'a surpris un peu que les Dodgers échangent un lanceur partant. Ils ont déjà de la difficulté avec plusieurs blessures, mais on a échangé Dustin May. Et les Yankees, eux, sont allés chercher davantage de la relève avec David Bednar et Camilo Doval, des Pirates et des Giants respectivement, en plus de Jake Bird également, un autre releveur des Rockies. Alors, c'est un peu deux mentalités différentes. Les Red Sox, c'est davantage les partants qu'on est allé chercher et l'inverse pour les Yankees.
Ouais, je pense que les Red Sox ont profité un peu là, du marché. Je pense que bon, ils s'entendaient peut-être plus bien là, Dustin May avec les Dodgers. Mais pour moi, Jasmin, c'est les Yankees là, qui ont carrément, selon moi, ont été cherchés, qui ont eu le meilleur. Journée d'échange du côté lanceur, parce que là, tu te ramasses avec 3 releveurs numéro 1 qui lancent ta 7e, ta 8e et ta 9e manche. Là.
Ouais, David Bednar et Camilo Doval, c'est à peu près 2 releveurs numéro 1 qui s'ajoutent pour les Yankees. Là.
C'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait de les Yankees. Oui, c'est sûr qu'ils en ont donné là, quand même là, pour recevoir. Mais les Yankees, là, c'est, je pense qu'ils vont, ils ont juste à jouer des matchs de 6 manches, là. Puis ils vont avoir une belle option là, en arrière. Là, ces 3 gars-là peuvent être. Puis on oublie, là, ils ont déjà un releveur numéro 1 avec Williams. Et tu rajoutes ces gars-là. Puis là, tu as Weaver aussi qui est là, là. Les Yankees là, vont être très armés dans l'enclos des releveurs, là.
Ouais, tout à fait. Et est-ce que ce sera suffisant pour que les Yankees puissent venir chauffer les Blue Jays? On va avoir toute une lutte parce qu'il n'y a que 3 matchs et demi d'écart maintenant. En début de semaine, quand on a fait le premier point lundi, c'était quoi? 6 matchs d'avance qu'avaient les Blue Jays, mais la mauvaise semaine de Toronto a, comme on dit, a resserré l'écart. Alors, 3 matchs et demi d'avance les Jays sur les Yankees. Et les Red Sox sont à 5 matchs seulement aussi, donc c'est pas impossible non plus pour les Red Sox qu'on va surveiller. Les Tigers de Détroit, eux, ont bougé également. La meilleure équipe dans la Ligue américaine depuis le début de la saison, Cal Finnegan, qu'on est allé chercher des Nationals. Ça aussi, c'était le releveur numéro 1 des Nationals. Il n'avait pas de gros chiffres cette saison parce que, bon, c'est pas facile à Washington, mais ça reste quand même un gars intéressant. Paul Sewald également, un ancien releveur numéro 1 des Diamondbacks. Et Charlie Morton, un vétéran de 41 ans. Alors, 3 lanceurs obtenus par les Tigers.
Ouais, les Tigers, je pense qu'ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Je pense pas qu'ils pouvaient faire des gros changements. Déjà que c'est une équipe qui est quand même assez jeune. L'année dernière, ils se sont rendus dans les séries. Personne ne les voyait là. Là, cette année, les autres, ils y croient aussi. On peut voir qu'ils sont allés chercher un petit peu, comme tu as mentionné, de l'expérience, hein. Ils ont été chercher des gars qui vont venir aider justement ces jeunes-là à rester calmes pendant les séries. Et puis justement, là, venir là, calmer tout un petit peu, que tout soit plus relax. Mais on voit là, que le DG des Tigers voulait vraiment juste là, venir chercher des vétérans là, pour venir aider nos jeunes.
Est-ce que tu as été surpris de voir les Astros de Houston dans l'Ouest? De voir les Astros bouger, ça ne m'a pas nécessairement surpris, mais de les voir rapatrier Carlos Correa, qui a été une idole là-bas pendant 7 ans, mais qui avait quitté Houston il y a quelques années pour signer avec les Twins du Minnesota. Ben là, il retourne à Houston et j'ai pas l'impression qu'il va retourner à l'arrêt-court, Roswell. J'ai l'impression que ça va être pour jouer au troisième but.
Écoute, je l'avais dit hier, hein, qu'il y avait tout le temps un nom à qui qu'on n'allait pas s'attendre. Écoute, moi, je m'attendais vraiment pas à voir
Carlos Correa, Houston. J'avais pas ça sur ma prévision, là.
Écoute, je l'avais pas du tout, mais je trouve que c'est tellement créatif du côté des Astros. On le sait que leur troisième but, là, justement, ne sera plus capable de jouer le reste de la saison.
Il Isaac est Paradise.
Exact, et Paradise qui est blessé pour le reste de la saison. Donc, on s'en va chercher un gars qui a déjà gagné, qui est adoré à Houston. Et comme je disais à mes amis hier, là, mais là, Josué, il va jouer, il va-tu jouer à l'arrêt court, il va-tu. Les gars, c'est certain qu'il s'en va au troisième but. Je suis certain que les Astros l'ont appelé avant, ils ont posé la question. Puis Correa, sans se poser de questions, il a probablement tout de suite dit oui. Écoute, j'ai une chance de gagner une autre série mondiale, je m'en vais où est-ce que tout le monde me connaît déjà. Puis on le sait que Peña, c'est vraiment l'arrêt court là, des Astros de Houston, mais je trouve que c'est très, très, très intéressant puis très créatif du côté des Astros.
Il va avoir passé 4 saisons, en fait 3 saisons et demie, le loin de Houston, et ça n'a pas été particulièrement étincelant pour lui. Sa première année avait été pas trop mal, ensuite la deuxième avait été difficile, la troisième, il a joué seulement la moitié de la saison, et cette année, il avait des chiffres bien en deçà de ses standards. Alors peut-être que lui aussi s'est dit de retourner à Houston dans un contexte que je connais, là où j'ai déjà excellé, ça a peut-être compté aussi dans sa décision, là.
Ouais, puis c'est un gars qui est quand même assez, tu sais, qui a été quand même une pièce maîtresse lorsqu'ils ont gagné la série mondiale. Il a tellement joué des matchs de série avec les Astros. Je pense que c'est un gars qui carbure aussi à la pression. Donc, je pense que c'est un bon échange pour les deux équipes, autant les Twins que les Astros.
85 matchs en carrière en éliminatoire pour Carlos Correa et 18 circuits dans ces 85 matchs-là avec un MPP à 860 en éliminatoire. Alors, c'est assez spectaculaire ce qu'il a fait, en effet, dans ces années avec les Astros. A gagné, évidemment, faut-il le rappeler, en 2017 dans une série mondiale qui est peut-être la plus controversée des 90 dernières années, si on remonte à l'époque des Black Sox là, dans les années 10. Là, j'ai l'impression que c'est la dernière fois où on avait eu autant de controverses sur une série mondiale. Les Astros qui ont gagné en 2017 avec un petit scandale de tricherie qui avait marqué le baseball majeur à ce moment-là. Si on va peut-être rapidement, là, parce que le temps file quand même, les Phillies qui sont allés chercher Harrison Bader, des Twins également, les Mets ont obtenu Cedric Mullins des Orioles, les Rangers ont obtenu Merrill Kelly des Diamondbacks, les Cubs ont allé chercher Willie Castro des Twins. Je te nomme quelques acquisitions en rafale. Je veux juste savoir laquelle là-dedans tu as envie de nous parler en terminant.
Ben écoute, moi, ça serait les Mariners. Les Mariners qui ont ajouté Eugenio Suarez.
Ah oui, celle-là, on en avait parlé hier, évidemment, mais oui, ça a marqué également la date limite.
Ben, ça a marqué, mais il y a aussi, pour moi, c'est les Mets. Les Mets, je pense qu'ils ont été cherchés. Là, ils avaient besoin d'un champ-centre, ils ont été cherchés. Encore une fois, eux autres aussi, des lanceurs dans l'enclos, dans la relève. Là. Écoute, ils ont été cherchés, selon moi, un des lanceurs numéro un là, qui était le plus convoité chez les Cards avec Heisley. Donc, je pense que, comme tu l'as dit au début, Jasmin, là, toutes les équipes ont été chercher de l'aide, les équipes qui pensent qui ont une chance dans les séries éliminatoires. Puis je pense que ça va être comme ça, sincèrement, à chaque année maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont dans le mix, et on le sait maintenant dans le baseball, là, que tout le monde a une chance lorsqu'il arrive pendant les séries.
Oswe, depuis le début de nos collaborations ensemble, on parlait de rumeurs de transactions à tous les jours. À partir de lundi prochain, quand on va faire nos chroniques, on va parler de résultats seulement, parce que les formations, elles ne bougeront plus à partir de maintenant, les transactions qui sont terminées dans le baseball majeur. Merci d'avoir été là aujourd'hui. C'était une chronique un peu en rafale. Je sais qu'on est allé dans plein de directions, mais je voulais qu'on essaye de couvrir le plus possible cette date limite. Lundi, on se reparle après la série 3 matchs des Jays contre les Royals.
On espère que ça va bien aller en fin de semaine.
Ouais, ça a été pas facile contre les Orioles. Souhaitons au moins 2 victoires sur 3. Là, je pense que ça serait le minimum pour les Jays contre les Royals. Merci, Oswe. Bon week-end de baseball, peu importe là où tu vas jouer, diriger, regarder. Je sais que tes week-ends ressemblent pas mal toujours à du baseball.
À peu près ça, jusqu'à temps que mon corps me dise d'arrêter. Là, ça va continuer d'être.
Ouais, non, ton corps est encore capable pour longtemps. T'es en forme.
Merci, Jess.
Salut, Joe. Bon week-end.
Salut.